Chapitre 7 La lutte de la mer. Il ne se peut imaginer créature humaine plus désolée, plus abandonnée que la pauvre Elisa lorsqu'elle eut quitté la case de l'oncle Tom. Les souffrances, les dangers de son mari, ceux de son enfant se confondaient dans son âme abasourdie avec l'étourdissante sensation de ses propres périls à l'heure où elle s'éloignait du seul asile qu'elle connut et se dérobait à la protection d'une maîtresse aussi vénérée que chérie. C'était l'adieu à chaque objet familier à mesure que s'effaçait, sous la froide et claire lueur d'un ciel étoilé, le toit qu'il avait vu grandir, l'arbre qui avait ombragé ses premiers jeux, le petit bois où, appuyée sur le bras de son jeune mari, elle avait joui de tant d'heureuses soirées. Les souvenirs se dressaient tour à tour au-devant de ses pas, comme pour lui reprocher son départ, l'abandon de son passé et tant d'affection qu'elle ne retrouverait plus. Mais l'amour maternel, exaspéré jusqu'à la frénésie par l'approche d'un affreux danger, dominait en elle tous les regrets, toutes les terreurs. Son fils était déjà assez grand pour marcher à ses côtés. Elle le portait cependant, et l'idée seule de relâcher cette étreinte convulsive la faisait frissonner, tandis qu'elle pressait de plus en plus le pas. Le sol gelé craquait sous son pied, et elle tressaillait au bruit. La feuille agitée, l'ombre mouvante, lui renvoyait au cœur un flot de sang, et sa marche rapide devenait plus rapide encore, et elle s'étonnait de la force qu'elle sentait croître en elle. Le poids de son garçon n'était plus rien, une plume, un fétu, et chaque palpitation d'effroi accroissait la vigueur surnaturelle qui la précipitait en avant, tandis que, de ses lèvres pâles, sortait incessamment cette prière au céleste ami de celui qui souffre « Seigneur, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir !»« Si c'était votre Henri, mère au teint blanc, si c'était votre Willy, qu'un brutal marchand de chair humaine dut vous arracher au matin, si vous aviez vu l'homme, vu la signature de l'acte, et n'eussiez-vous que quelques heures de nuit accordées à votre fuite? Oh, que vos pas seraient rapides! Que de chemin vous feriez, dans ce peu de temps, votre trésor serré à votre sein, sa tête bouclée endormie sur votre épaule, ses petits bras jetés autour de votre cou! » Car l'enfant dormait. D'abord la surprise et la peur le tinrent éveillé. Mais sa mère réprimait si vite le plus léger soupir, le plus faible son, elle affirmait si fort qu'elle le sauverait qu'il se cramponna paisiblement à son cou et demanda seulement, comme le sommeil l'accablait, « Maman, faut-il rester éveillé ?» dit. « Non, mon amour, dors si tu veux. »« Mais si je dors, maman, tu ne me laisseras pas prendre ?»« Non, que Dieu me vienne en aide !» répondit la mère pâlissante, un feu sauvage jaillissant de ses yeux. « Vrai, maman, bien vrai ?»« Très sûr, mon enfant, » dit la mère d'une voix qui la fit tressaillir elle-même, car il lui semblait qu'un esprit hors d'elle avait parlé en elle, et le petit garçon, laissant tomber sa tête sur l'épaule de sa mère, fut bientôt profondément endormi. La pression de ses petits bras chauds, les caresses de cette fraîche haleine, ajoutait un feu à sa flamme, une ardeur à son ardeur. Chaque imperceptible mouvement, chaque léger contact de l'enfant versait en elle, par courants électriques, une force surhumaine. L'empire de l'âme sur le corps est tel que pour un temps il rend les muscles inflexibles, les nerfs d'acier, et pénètre le plus faible d'une invincible énergie. Les bornes de la ferme, les bosquets, le taillis fuyaient comme dans un rêve, et elle marchait toujours, sans arrêt, sans relâche, voyant disparaître l'un après l'autre tous les objets familiers. Enfin, l'aube rougissante la trouva sur la grande route, ayant dépassé de plusieurs lieues tout ce qui lui était connu. Bien des fois, elle avait accompagné sa maîtresse lorsque celle-ci allait visiter des parents au village de T, sur l'Oyo, et elle en savait le chemin. Y aller, traverser le fleuve, là s'arrêtaient ses plans. Après, elle s'en remettait à Dieu. Quand les chevaux et les voitures commencèrent à circuler, elle sentit, avec cette rapide perception qui appartient aux situations violentes, que sa marche précipitée, son air éperdu, allait provoquer des remarques, éveiller des soupçons. Elle remit l'enfant par terre, rajusta ses vêtements, sa coiffure, et marcha aussi vite que le permettait la prudence. Dans son petit paquet se trouvaient quelques gâteaux, quelques pommes, dont elle se servit pour hâter la course du petit garçon. Elle faisait rouler le fruit un peu loin devant lui. Il courait après, et, à l'aide de cette manœuvre, elle put gagner encore plus d'une demi-lieue. Ils arrivèrent enfin près d'un petit enclos boisé où murmurait un ruisseau limpide. L'enfant se plaignait de faim et de soif. Elle franchit la haie avec lui et, tapie derrière un rocher qui les défendait de l'œil des passants, elle tira le déjeuner de son mince paquet. Henri se chagrinait de ce que sa mère ne pouvait manger. Les bras passés à son cou, il s'efforçait de lui glisser dans la bouche quelques bribes de gâteau. Mais il semblait à la pauvre femme que le moindre morceau allait la suffoquer. « Non, Henri, non, mon trésor, maman ne mangera pas que tu ne sois sauvé. Il faut aller, aller, gagner la rivière. » Et, reprenant aussitôt la route, elle s'efforça de ne pas marcher trop vite. Elle avait dépassé depuis longtemps le voisinage immédiat de l'habitation, et, dût-elle faire quelques fâcheuses rencontres, la bonté de la famille à laquelle elle appartenait était trop généralement connue pour qu'on la soupçonnât de fuir. D'ailleurs, elle ne gardait presque aucune trace de son origine. La blancheur de son fils et la sienne devaient écarter la défiance. Sur cette présomption, elle s'arrêta vers midi à une petite ferme propre et rangée afin de prendre un peu de repos et d'acheter quelques vivres. Car, à mesure que l'éloignement reculait le danger, la tension de ses nerfs se relâchant, elle sentait croître la fatigue et la faim. La maîtresse du logis, bonne femme, ravie d'avoir quelqu'un avec qui causer, accepta sans objection l'explication d'Elisa, qui se disait en route pour aller passer une semaine chez des amis. Assertion qu'elle se flattait de voir peut-être se vérifier. Une heure avant le coucher du soleil, épuisée, les pieds au vif, mais forte encore de cœur, elle entrait dans le village de T, au bord de l'Oyo. Là, son premier regard fut pour le fleuve, ce Jourdain qui la séparait de la terre promise, du sol de la liberté. On touchait au printemps, et la rivière enflée et bruyante charriait d'énormes glaçons qui oscillaient pesamment au travers des flots bourbeux. La forme particulière de la rive recourbée du Kentucky fait que la glace s'y attache et s'y accumule, retrécissant le canal où l'eau pousse et entraîne une succession de masses glacées qui viennent s'entasser l'une sur l'autre et former momentanément une barrière le long de laquelle glissent de nouveaux glaçons, mouvant radeau qui va presque rejoindre l'autre rive. Elisa contempla un instant ce menaçant aspect. Le passage du bac devait être interrompu. Pour plus d'informations, elle entra dans une petite auberge voisine. L'hôtesse était tout entière aux préparatifs du souper. Mais elle se retourna, la fourchette en main, à la voix douce et plaintive qui demandait « N'y a-t-il plus de trailles pour passer les gens qui vont à B ?»« Non, vraiment, dit la femme, les bateaux ne marchent plus. » L'expression de désolation et de terreur d'Elisa frappa la brave hôtesse et elle reprit. « Peut-être avez-vous grand intérêt à traverser ? Quelqu'un de malade ? Vous semblez si tourmenté. » « J'ai un enfant en grand danger, dit Elisa. Je ne l'ai su que de la nuit dernière, et depuis j'ai toujours marché dans l'espoir d'arriver au bac. Là, c'est vraiment malheureux, répliqua la femme, dont les sympathies maternelles venaient de s'éveiller. Je suis peinée à cause de vous. Salomon ! Cria-t-elle de la fenêtre. Un homme, en tablier de cuir et les mains fort sales, parut à la porte d'un arrière-bâtiment. « Dites donc, le batelier traverse-t-il ce soir avec les barriques ?»«
Il a dit qu'il tâcherait, pourvu que ce fût possible, » répliqua Salomon.
« Il y a, reprit l'hôtesse, à un jet de pierre de chez nous, un homme qui doit traverser, s'il l'ose, pour un transport de marchandises pressées. Il vient ici souper dans un moment. Vous ferez donc mieux de vous asseoir là et de l'attendre. » « Voilà-t-il pas un gentil petit camarade ?» ajouta la femme, et elle offrit un gâteau à l'enfant. Mais Henri, fléchissant, pleurait de lassitude.
« Pauvre petit, il n'est pas habitué à marcher autant, et je l'ai trop fait courir, » dit Elisa.
« Eh bien, reprit la femme, faites-le un peu reposer là-dedans. » Et elle ouvrit la porte d'une petite chambre où se trouvait un lit. La mère y posa son pauvre garçon exténué, dont elle tint les petites mains entre les siennes, jusqu'à ce que l'enfant fût endormi. Pour la mère, il n'y avait pas de sommeil. Comme un feu adhérent à ses os, brûlait en elle la pensée des chasseurs attachés à sa piste. Et elle fixait un regard ardent sur les eaux noires et gonflées qui la séparaient du salut. Mais il nous faut prendre congé d'elle, et revenir à ceux qui la poursuivent. Quoique Madame Shelby se fût engagée à faire servir sur l'heure, on vit bientôt, ce qui s'est vu de tout temps, qu'il faut être deux pour faire un marché. L'ordre avait été donné à haute voix aux oreilles de Hayley et porté à tante Chloé par une demi-douzaine de jeunes messagers, auxquels cette grande puissance accorda, d'un air rechigné, deux ou trois hochements de tête bourrus, sans rien déranger de la grave et minutieuse lenteur de ses opérations. Par quelque intuition secrète, une impression générale que maîtresse ne serait nullement désobligée d'un délai semblait prévaloir, et la succession d'accidents qui retardèrent le service fut vraiment miraculeuse. Un infortuné personnage trouva moyen de renverser le jus. Il fallut en refaire, avec tout le soin, toutes les formalités requises. Tante Chloé, en tournant d'un air hargneux le précieux liquide, répondit brusquement à toutes les insinuations de hâte que ce ne serait pas elle qui, pour aider le pauvre monde, servirait du mauvais jus. L'un tomba avec les jarres, et il fallut retourner chercher de l'eau à la source. L'autre précipita le beurre au milieu des hasards. Des rires étouffés parcouraient la cuisine, lorsqu'arrivaient par intermittence des nouvelles de Massa Hayley.
Il pouvait pas tenir sur sa chaise, il ne faisait qu'aller et venir de la porte à la fenêtre.
C'est bien fait, dit tante Chloé avec indignation. Ça ira pire pour lui s'il ne s'amende, quand le maître viendra et lui dira de rendre compte. Faudra voir sa mine alors.
L'y aller en enfer, sans faute, dit le petit Jacquet.
« Et qu'il l'a fièrement gagné !» répliqua tante Chloé. « Lui qui a tant et tant brisé de pauvres cœurs ! C'est moi qui vous le dis à vous autres » poursuivit-elle en levant d'un air terrible sa grande fourchette comme un trident. « Juste ce que lisait M. Georges dans les Révélations. Les âmes crient au Seigneur sous l'autel, elles demandent vengeance, et le Seigneur les entendra, vienne le temps. Oui, à son dame, il viendra le temps. »
Tante Chloé, fort révérée dans son domaine, fut écoutée par tous, bouche béante. Et, comme le dîner était à la fin servi, le personnel de la cuisine s'agglomera autour d'elle pour l'entendre et commérer un peu.
« C'est pareil, brûle vif toute l'éternité, pour sûr, pas vrai ?» disait Andy.
« Moi, content, voir rôtir lit, toujours, toujours !» cria Jacquet.
Enfant, dit une voix qui les fit tressaillir. C'était l'oncle Tom qui, arrêté sur le seuil, avait tout entendu. « Enfant, vous ne comprenez pas. J'ai peur.
L'éternité est un terrible mot. D'y penser seulement, ça vous fait chair de poule. C'est mal, souhaiter les éternels tourments à une créature humaine.
C'est pas une créature humaine, s'est récria Andy. Les traqueurs d'âmes sont des méchants chiens, pas humains.
La nature même crie contre eux, ajouta tante Chloé.
Arrache-t-il pas le nourrisson du sein de la mère pour le vendre? Les petits pleurnicheurs pendus à son jupon pour les vendre? Est-ce qu'il n'ôte pas le mari à sa femme?
Poursuivit tante Chloé, les larmes commençant à la gagner.
Et sait-il pas prendre la vie à tous deux? Et ça sans perdre un coup de dent, un verre de vin? Eux fumer, eux boire, gaillards comme devant. Ah, si le diable n'agrippe pas cela, à quoi serait-il bon, le diable?
Et tante Chloé se couvrit la face de son tablier de cotonnade et sanglota de tout son cœur.
« Priez pour ceux qui vous persécutent, a dit le livre, reprit Tom.
« Pour eux ? » s'écria tante Chloé. « C'est par trop dur. Je ne peux pas prier pour eux. »
« C'est la faute de la chair, Chloé, et la chair est faible. Mais l'Esprit de Dieu est fort. Pense seulement à l'âme de ces pauvres créatures et remercie le Seigneur, Chloé, de n'être pas à leur place. Ah, pour certains, j'aime mieux être vendu des 100 et 100 fois que d'avoir sur le cœur tout ce dont ces pauvres méchants auront à répondre.
« Moi de même, » dit Jacquet. « Eh, bon Dieu, jamais nous vouloir attraper Lizzie, pas vrai, Andy ?»
Andy plia les épaules et siffla en signe d'acquiescement.
« Je suis content que maître ne soit pas parti ce matin comme il l'avait résolu, » poursuivit Tom. « J'aurais été encore plus chagriné, je crois, de le voir partir que d'être vendu. C'est naturel à lui de ne pas vouloir y être, mais moi, j'en aurais le cœur bien gros. » Je l'ai vu si petit. Là, maintenant, je me sens tout résigné. C'est la volonté de Dieu. Maître n'y peut, mais... Et il a fait pour le mieux. Ce qui me soucie à l'heure qu'il est, c'est de penser comment ça ira quand je n'y serai plus. Faut pas s'attendre que le maître aille voir à toute chose pour tâcher de joindre les deux bouts comme je faisais. Et quoi qu'ils aient bonne volonté, nos hommes sont de fiers sans souci. C'est là ce qui me tourmente. »
La sonnette se fit entendre et Tom fut appelé au salon.
« Tom, dit affectueusement son maître, je tiens à ce que vous sachiez que j'ai signé à monsieur un dédit de $1,000 au cas où vous ne vous trouveriez pas ici à l'heure où il viendra vous réclamer. Il va qu'à d'autres affaires aujourd'hui. Vous pouvez disposer de la journée. « Va donc où tu voudras, mon bon garçon. »«
Je vous remercie, maître, » dit Tom.
« Et songe-y, » reprit le marchand, « ne t'avise pas de jouer à ton maître un de vos tours de nègre, car si tu n'es pas là, je tirerai de lui jusqu'à la dernière obole. S'il m'en croyait, il ne serait pas si fou que de s'en fier à un de vous autres noirs, qui glissez à travers les doigts comme des anguilles. »«
Maître, » dit Tom, et il se redressa de toute sa hauteur. « J'avais juste 8 ans, quand vieille maîtresse vous posa sur mes bras, vous tout petit garçon qui n'aviez pas 1 an. Elle me dit, « Tom, voilà ton jeune maître, prends bon soin de lui. Aujourd'hui, maître, je vous le demande, vous ai-je jamais trompé, jamais désobéi, surtout depuis que je suis devenu chrétien ?»
L'émotion gagnait M. Shelby. Des larmes remplirent ses yeux lorsqu'il répondit.
« Mon brave garçon, le Seigneur sait que tu ne dis que la simple vérité, et s'il était en mon pouvoir de te garder, les trésors du monde entier ne t'achèteraient pas. »
« Mais, comme il est vrai que je suis chrétienne, ajouta Mme Shelby, vous serez racheté, Tom, dès que j'aurai pu, n'importe comment, réunir la somme nécessaire. « Monsieur, poursuivit-elle en se tournant vers Haley, prenez bien note de celui à qui vous le vendrez et faites-le-moi connaître. »«
Très volontiers, répliqua le marchand, je puis vous ramener le noir dans 1 an sans tard et vous le revendre, pas pire pour l'user. »
C'est mon état à moi.
Je commercerai alors de bon cœur avec vous et vous y trouverez votre compte, dit-elle.
Sans doute, reprit le marchand, vendre ou acheter, ça m'est tout un, pourvu que l'affaire soit bonne. Ce que je veux, c'est de gagner honnêtement ma vie, madame. Et nous n'en faisons ni plus ni moins tous tant que nous sommes, je présume.
Monsieur et madame Shelby, ennuyés l'un et l'autre, se sentaient en quelque sorte dégradés par l'impudente familiarité du marchand. Mais tous deux voyaient la nécessité de se contraindre. Plus l'homme se montrait insensible et sordide, plus madame Shelby craignait qu'il ne réussît à s'emparer d'Elisa et de Henri, et plus elle redoublait d'efforts et d'artifices féminins pour le retenir. Elle lui souriait gracieusement, causait avec aisance et familiarité, et mettait tout en œuvre pour faire couler le temps d'une façon imperceptible. À 2 heures, Sam et Andy amenèrent les chevaux rafraîchis et tout gaillard de leur escapade du matin. Sam se tenait là, huilé à neuf par le dîner, officieux et tout débordant de zèle. Il était en train de se vanter, en style fleuri, de la façon dont il ménagerait les affaires, maintenant qu'il s'y mettait tout de bon, lorsque Hayley s'approcha.
« Votre maître n'a pas de chien, je le parierai !» dit Hayley d'un air réfléchi, comme il se préparait à monter en selle.
« Lui, eh, lui, en avoir des tas !» répliqua Sam d'un air superbe. « V'là Bruno d'abord, un fameux braillard. Et puis, chacun de nous autres nègres, a-t-il pas son roquet ?»«
Pouah !» dit Hayley.
Et il ajouta quelques mots qui chatouillèrent la susceptibilité de Sam, lequel murmura.
« Pas comprendre, moi. Pourquoi jurer après pauvre bête ?»«
Voyons, reprit Hayley. Ton maître a-t-il des chiens? Je suis assez sûr d'avance que non. Dressés à dépister les nègres? »
Sam savait à merveille ce que le marchand voulait dire, mais il conserva l'air de la plus candide, de la plus désespérante simplicité.
Nos chiens avoir un flair qui compte, eux être de la bonne race. Pas dressés, vrai, mais fameux une fois lancés. Ici, Bruno!
Et il siffla le grand Terre-Neuve qui, la queue en l'air, accourut à lui en folâtrant.
« Allez vous faire pendre !» s'écria Hayley, s'élançant sur son cheval. « Enfourchez-moi vos bêtes et en avant !»
Sam obéit et, sautant à cheval, trouva encore moyen de chatouiller son camarade. Andy partit aussitôt d'un éclat de rire immodéré à la grande indignation de Hayley qui lui allongea un coup de cravache.
« Mal à toi, Andy !» fit observer Sam avec une imperturbable gravité. « Chose sérieuse, Andy, et toi faire le farceur? Pas bon moyen d'aider Massa !»«
J'irai à la rivière par la plus courte, » dit le marchand d'un ton déterminé, dès que les limites de la propriété furent dépassées. « Je connais toutes leurs ruses. Ils se creuseraient des chemins sous terre. »«
Là !» s'écria Sam, « voilà la bonne idée !»
Massa boutait tout de suite au blanc. « Il y a 2 routes pour aller à Grand-Rivière. Route vieille d'en bas, route neuve d'en haut. Laquelle Massa vouloir prendre ?»
Andy ouvrit de grands yeux à cette révélation d'un nouveau fait géographique, mais ne s'en hâta pas moins de le confirmer avec véhémence.
« À savoir, reprit Sam, Lizzie, je le gagerai, avoir pris la route d'en bas, vu qu'elle est la moins fréquentée. »
Quoique Hayley fût un fin merle qui de loin flairait la glu, ce point de vue le frappa.
« Si vous n'étiez pas tous deux de si damnés menteurs, » dit-il en réfléchissant.
Le ton dubitatif de la remarque parut amuser prodigieusement Andy, qui se retira un peu en arrière, riant si fort qu'il faillit en tomber de cheval, tandis que Sam conservait la même gravité solennelle et dolente.
« Massa ira par où Massa voudra, c'est sûr, » reprit-il. « Au plus court, route d'en haut, si Massa pense être la meilleure. »«
Que nous fait ?
Même chose pour nous. À présent, j'y songe, route droite doit évidemment la plus courte. » elle choisira nécessairement le chemin le plus solitaire, » pensait tout haut le marchand sans écouter Sam.
« Pas sûr, » reprit celui-ci. « Filles avoir leurs caprices, faire jamais comme on croit elle devoir faire, mais tout juste au rebours. Vous croire elle prendra d'un côté, être une raison pour qu'elle allait par l'autre. Moi avoir cru Lizzie prendre la route d'en bas, bonne raison pour qu'elle ait enfilé la route d'en haut. »
Cette profonde vue de l'agent féminine ne disposant nullement Haley en faveur du dernier avis de Sam, le marchand demanda si la route d'en bas était proche.
« Une poussée en avant !»
répliqua Sam, fermant l'œil qui se trouvait du côté de Andy, et il ajouta gravement.
« Mais, Massa, moi avoir maintenant bien dévisagé l'affaire. Nous, pas devoir prendre par là. D'abord, moi pas la connaître du tout, cette route d'en bas. Un vrai dessert à se perdre et tomber, Dieu sait où.
« N'importe, je prends la route basse, » affirma Haley.
« Eh, j'y songe, on dit ce vieux chemin tout intervallé de cours d'eau, de criques, de haies. Pas moyen d'y passer, hors service. Pas vrai, Andy ?»
Andy en avait bien entendu quelque chose, mais il n'était sûr de rien, n'ayant jamais pris par là. Bref, il ne voulait pas se commettre. Accoutumée à tenir la balance entre des mensonges plus ou moins patents, Haley penchait pour la vieille route. Il suspectait Sam de l'avoir tout d'abord indiqué inconsidérément, et les tentatives du noir pour le dissuader de la choisir lui semblèrent autant d'impudents mensonges faits sur plus mûres réflexions en faveur d'Elisa. En conséquence, dès que Sam indiqua la route d'en bas, il s'y précipita aveuglément, suivi des deux noirs. C'était en effet l'ancien chemin de la rivière, mais abandonné depuis des années, et qui, frayé seulement à l'entrée, était ensuite coupé de fossés, de haies et de barrières. Sam le savait à merveille, et il y avait si longtemps que cette voie était hors d'usage, que Andy n'en avait jamais ouï parler. Le nègre y entra d'un air d'humble soumission. Seulement, de temps à autre, il gémissait et vociférait que c'était diablement rude pour les pieds du pauvre Jerry.
« Ah, ça, j'ai un avis à vous donner, » dit Haley. « Je vous sens venir d'une lieue, vous autres noirs. Avec tous vos embarras, vous espérez me détourner de cette route, bernicle. »
« Comme Massa voudra, »
répliqua Sam, la figure allongée, mais clignant de l'œil avec un redoublement de verve à son camarade, dont la joie était toujours sur le point de faire explosion. Sam, fort en train, prétendait être aux aguets. Tantôt il s'écriait qu'il voyait pointer un chapeau de femme au sommet de quelque montée, tantôt il en appelait à Andy. N'était-ce pas Lizzie qui se cachait dans ce trou de vallon? Ses exclamations partaient toujours aux endroits les plus raboteux, les plus rocailleux de la route, lorsqu'il était très difficile de pousser les chevaux, et toujours Haley était tenue en haleine. Après avoir chevauché de la sorte une bonne heure, tous trois, par une brusque descente, arrivèrent tumultueusement dans une large cour entourée de granges. Tous les bras étant occupés dans les champs, il n'y avait personne en vue. Mais la ferme, dont ces granges faisaient partie, barrait la route, qui, évidemment, se terminait là.
« L'ai-je pas dit, moi ?» « Avoir bien prévenu Massa ?»
gémit Sam le noir d'un air d'innocence.
« Les Massas étrangers, pouvoir pas connaître le pays comme les nègres, nés natifs de l'endroit. »«
Drôle !» s'écria Haley, « tu ne le savais que trop. »«
Oh, moi dire tout bien juste à Massa, et Massa pas vouloir me croire. J'ai dit que c'était le tout barré. Barrière et fossé, pas possible de passer. » « M'as-tu pas entendu, Andy ?»
La chose était trop vraie pour être disputée. Force fut au malheureux marchand de dissimuler sa rage, d'aussi bonne grâce qu'il le put, et tous trois, tournant casaque, se dirigèrent vers la route neuve. Grâce à ces nombreux délais, il pouvait y avoir trois quarts d'heure qu'Elisa avait endormi son enfant dans l'auberge lorsque le trio atteignit le village. Assise à la fenêtre, la jeune femme regardait dans une autre direction, quand l'œil perçant de Sam la découvrit. Haley et Andy se trouvaient de quelques pas en arrière. Dans cette crise, Sam parvint à faire enlever son chapeau par le vent et poussa un cri lamentable qui la fit tressaillir. Elle se rejeta en arrière. La petite cavalcade fila le long de la fenêtre et s'arrêta devant le portail. 1 million de vies semblèrent se concentrer dans le sein d'Elisa. Une porte dérobée donnait sur la rivière. Enlevant l'enfant dans ses bras, elle descendit rapidement les marches et disparaissait derrière la berge lorsque Haley l'aperçut en plein. Se jetant à bas de son cheval, il appela à grands cris « Sam ! Andy !» et s'élança sur ses traces comme un limier court sur un daim. À ce moment de vertige, les pieds de la fugitive ne touchaient pas terre. En un clin d'œil, elle eut gagné l'extrême bord. Ils arrivaient sur elle. Animée d'une force que Dieu n'accorde qu'au désespoir, avec un cri sauvage et un terrible élan, elle franchit d'un saut le courant bourbeux qui longeait la rive et se trouva sur le radeau de glaçons qu'il charriait au-delà. C'était un bond prodigieux. La folie, la frénésie seule le pouvait tenter. Et Sam, Andy, Haley, les mains levées, crièrent instinctivement. Le glaçon verdâtre sur lequel elle s'abattit craqua et s'enfonça sous son poids, mais elle ne s'y arrêta pas. Avec des cris perçants et une indomptable énergie, elle s'élance sur un autre, puis sur un autre glaçon. Elle trébuche, se relève, chancelle, glisse, rebondit, s'élance encore. Ses souliers sont partis, ses bas coupés. Son sang marque chacun de ses pas. Elle n'aperçoit rien, n'entend rien, ne sent rien, jusqu'à ce que, vaguement, comme en un rêve, elle entrevoit l'autre bord et un homme qui l'aide à y grimper. « Brave fille, qui que tu sois, brave créature !» criait l'homme en jurant. Elisa reconnut la voix et les traits d'un fermier qui habitait près de son ancienne maison. « Oh, monsieur Sims, sauvez-moi, sauvez-moi, cachez-moi » cria Elisa. « Comment donc, qui est-ce là ? » ?»« Eh, mais n'est-ce pas la fille des Shelby ?» dit l'homme. « Mon enfant, ce garçon, ils l'ont vendu. Là est son maître !» dit-elle, montrant du doigt la rive du Kentucky. « Oh, monsieur Sims, vous aussi, vous avez un petit garçon !»« Oui, j'en ai un, » dit l'homme. Qui, d'une façon rude et tendre tout à la fois, la tirait en haut de la berge escarpée. « D'ailleurs, vous êtes une courageuse fille et j'aime ce qui est grand. » Quand ils eurent gagné le plateau, l'homme s'arrêta. « Je serai content de faire quelque chose pour vous, mais je n'ai pas où vous mettre. La seule aide que je puisse vous donner, c'est de vous conseiller d'aller là. » Et il lui montra une grande maison blanche à l'écart sur l'alignement de la grande rue du village. « Allez-y, il s'y trouve de bonnes gens. Il n'y a pas de doute qu'ils ne vous aident. Ils s'entendent à ces sortes d'affaires. »« Que le Seigneur vous bénisse !» dit Elisa avec ferveur. « N'y a pas de quoi, » dit le brave homme, « c'est bien le moins. »« Eh bien sûr, monsieur, vous ne le direz à personne !»« Mille tonnerres, pour qui me prends-tu, la fille ?»« Certes non !» « Voyons, va maintenant, comme une bonne et brave créature que tu es. Tu as bien gagné ta liberté, et tu l'aurais si ça dépendait de moi. » Elisa serra son fils entre ses bras et marcha d'un pas ferme et rapide. L'homme restait à la regarder. « Shelby trouvera peut-être que ce n'est pas un acte de bon voisinage, mais qu'y faire? S'il attrape une de mes gaillardes dans la même passe, ma foi, il est bienvenu à prendre sa revanche. » « Bah ! Jamais je n'aurai le cœur de voir de pauvres êtres, n'importe lesquels, courir pantelés hors d'haleine avec les chiens sur leurs talons et de me mettre aussi contre eux. Ma foi, je ne vois pas pourquoi je chasserai pour le compte d'autrui. » Ainsi parla ce pauvre habitant du Kentucky, vrai païen, ignorant ses devoirs constitutionnels, agissant en chrétien. Mieux élevé, plus éclairé, il aurait su mieux se conduire. Haley, stupéfiée, était restée immobile, spectateur de toute la scène, jusqu'à ce qu'Elisa eût complètement disparu. Alors, il tourna vers Sam et Andy, sa face désappointée et son œil interrogateur.
« En v'là un bon coup !» dit Sam. « Il faut que la fille ait sept diables dans le corps !» dit Haley. « Elle bondissait comme un chat sauvage !»«
Pardon, excuse, Massa !» reprit Sam en se grattant la tête. « Mais moi, pas tenté de suivre sa route. Pense pas, moi, être assez vif pour ça !»
Et les côtes du noir s'ébranlèrent sous son rire enroué.
« Tu ris, drôle !» grommela le marchand.
« Dieu vous bénisse, Massa, pas possible de s'en empêcher !» dit Sam, s'abandonnant à ses ravissements trop longtemps contenus.
« Elle était si comique, elle sautait, elle courait, et la glace craquait, enfonçait, et pouf, et pif, et spliche, et splash, quel bon ! Seigneur Dieu, comme elle y allait !»
Sam et Andy éclatèrent d'un rire immodéré, et les larmes jaillirent de leurs yeux.
« Je vous ferai rire à l'envers, drôle !» dit Haley.
Sa cravache voltigea autour de leur tête. Tous deux firent le plongeon, et s'élançant vers le haut de la rive, ils furent en selle avant qu'ils les eurent attrapés.
« Bonsoir, Massa !» dit Sam avec une gravité solennelle. « Moi, deviner maîtresse, être bien en peine de Jerry. Massa, Haley, n'avoir plus besoin de moi. » Jamais maîtresse vouloir permettre ses chevaux traverser ce soir sur le pont de Lizzy. »
Donnant un facétieux coup de poing dans les côtes de Andy, il prit le trot, suivi de son camarade, et leurs éclats de rire moururent à distance, emportés sur la brise du soir.